Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le retour donc de Tech & Co avec ce soir pour débriefer l'actu jusqu'à 21h. Eh bien, Perle Bago, qui est experte en innovation digitale. À ses côtés, c'est Salim Assad, associé chez Newfound, et Enguerrand Renaud, consultant chez Image7. Alors, on a parlé de Quipper tout à l'heure. On a parlé de Meta et de son abonnement payant qui ne passe pas en Europe. On a évoqué aussi l'autorité de la concurrence qui tape sur les doigts d'NVIDIA. On avait terminé sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on était un petit peu pris par le temps. On a terminé, on passe à autre chose.
Allez,
on passe à autre chose et on passe à Apple. Puisque le prochain iPhone, vous le savez, ça devient maintenant un calendrier assez rodé et bien huilé. Hein. Le prochain iPhone sortira en septembre prochain. Ce sera l'iPhone 16. Alors, on ne va pas parler de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle qui devrait être, on va dire, le gros bonus de ce nouveau modèle, si ça arrive un jour en Europe, hein, puisque là encore, la Commission européenne pourra peut-être mettre son nez là-dedans. Mais on va évoquer l'iPhone parce que, justement, il va être sans doute plus facilement réparable et démontable. Et ça, c'est un point très important qui a été aussi poussé par l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que si on a des prises USB-C sur la plupart de nos appareils, c'est grâce à l'Union européenne qui a poussé en fait tous les constructeurs d'électronique à avoir un seul connecteur en fait universel pour éviter d'avoir plein de chargeurs chez nous. Et finalement, ça fait du bien à la planète tout ça, parce que finalement, avec un seul chargeur, on peut recharger plusieurs produits. Là, on passe à la réparabilité. L'iPhone n'a jamais été un champion, hein, Enguerrand, sur ce sujet. Il suffit de regarder les vidéos de iFixit, qui est un peu le spécialiste du démontage d'iPhone. Voilà, depuis des années, en fait, les notes n'étaient pas très bonnes concernant l'iPhone. Là, visiblement, Apple va un peu changer son fusil d'épaule. Tout ça, encore une fois, sous la pression de l'Union européenne.
Ah oui, quand tu disais que ce n'était pas réparable, ça faisait partie même du modèle. Du modèle de vie. C'est quoi le modèle de vie? C'est un design. Donc, on ne doit pas l'ouvrir. C'est pas une voiture. On soulève le capot et on change les bougies. C'est un design qui est très beau. Et puis surtout, le fait qu'il soit pas réparable permet de, une fois qu'il marche moins bien, de le changer. Donc ça, c'est quand même.
C'est pas le discours officiel d'Apple. Hein,
ça n'a jamais été le discours officiel d'Apple. Non, on parle pas d'obsolescence programmée chez Apple. Ça serait un gros mot. Mais ça, honnêtement, ça a toujours été ça. Et c'était à la fois sur le ARM, donc sur l'iPhone. Mais effectivement, la compatibilité avec les versions d'iOS. Puis à un moment, quand on avait un vieil iPhone, on pouvait plus télécharger le nouvel iOS. Donc il fallait le changer. Tout ça, c'est le modèle Apple. Et c'est pas le seul, hein, mais c'est le modèle Apple. L'Europe a un autre modèle, c'est-à-dire qu'elle impose effectivement le fait que ce soit plus simple pour le consommateur. Et deuxième chose, et tu l'as souligné, le fait que ce soit mieux pour la planète. Et le fait d'être réparable, de faire des téléphones qui durent plus longtemps, voilà, donc qui consomment moins de terres rares, qui consomment moins d'énergie pour les fabriquer, moins d'énergie pour les transporter, qui peuvent être réparables, allonger la durée de vie des appareils, ça paraît être une bonne idée.
Alors, est-ce que ça va être le cas? Parce que, encore une fois, c'est qu'une rumeur. Vous savez qu'avec Apple, tant que les produits n'ont pas été annoncés, on ne sait rien. Mais là, visiblement, c'est Min-Chun Kuo, vous savez, cet analyste qui est vraiment au courant des tout derniers secrets d'Apple, qui a balancé ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Perle, par exemple?
Ce qui est sûr, c'est que globalement, c'est le sens de l'histoire. On demande aujourd'hui à toutes les entreprises de faire évoluer leurs produits, de faire évoluer leurs modèles pour rentrer dans un cycle de réutilisation, de revente, de réparabilité, avec d'ailleurs des contraintes réglementaires qui vont être de plus en plus importantes, hein, sur le fait de pouvoir vraiment rentrer dans un cycle plutôt vertueux que uniquement de consommation, d'obsolescence programmée ou en tout cas d'objets qu'on ne peut pas réparer. Donc c'est peut-être une rumeur, peut-être que ça ne se fera pas en tant que tel et peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Le fait est que c'est plus qu'une tendance, c'est une obligation du marché qui est en train de se mettre en place et qui va de fait, de toute façon, demander à tous ces acteurs de la tech de rendre recyclables, réparables, leurs produits, leurs objets. Donc, c'est pas étonnant. En tout cas.
Là, on parle de la batterie, hein, pour l'instant. Attention, hein. Oui, on n'a peut-être pas été très très clair. On parle que de la facilité du changement de la batterie, finalement.
Ouais, c'est Salim. Et ouais, de ce qu'on comprend, alors c'est pas encore très clair parce qu'évidemment Apple va pas nous confier leur secret.
On va pas avoir le mode d'emploi tout de suite
sur le hardware, mais le fait que la batterie soit entre guillemets pseudo amovible, parce que c'est pas une batterie qu'on va enlever comme dans les Nokia 3310 de l'époque, serait mis dans un espèce de boîtier en métal qui réduirait la dissipation thermique et donc augmenterait ce qu'on appelle la densité des batteries et donc augmenterait la je ne sais pas, alors c'est pas encore très clair, le pourcentage de, en tout cas la durée de vie, la longévité de la batterie. Alors si c'est le cas, évidemment très bonne nouvelle pour les consommateurs, et ça prouverait une nouvelle fois que même si l'Union européenne et la Commission européenne ont la réputation de réguler au lieu d'innover, bah au final, le consommateur peut aussi en avoir pour son argent.
C'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal, même si...
Et c'est bien de commencer par la batterie, parce que la batterie, c'est le premier, on va dire, organe vital du téléphone qui tombe en rade, parce que c'est vrai qu'à force de charger, décharger son téléphone, au bout d'un moment, vous savez, hein, les batteries, c'est un certain nombre de cycles.
C'est de pire en pire, alors que Apple annonce le contraire. En tout cas, moi, c'est ma perception. Ouais. J'ai l'impression que alors que d'annonce en annonce, Apple annonce que les batteries durent de plus en plus longtemps. J'ai vraiment l'impression que quand la promesse est la réalité, ou en tout cas ce qui est affiché.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est vraiment une demande des consommateurs de pouvoir allonger la durée de vie et surtout de pouvoir acheter des téléphones reconditionnés. Et parmi les téléphones reconditionnés, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une grande demande pour les iPhones. D'accord ? Il y a une grande tendance, les consommateurs veulent des téléphones reconditionnés. Là encore, c'est bien pour la planète. Et ce qui est bien en plus, c'est bien pour l'emploi. Mm-hmm. Parce que le reconditionnement se fait souvent dans des ateliers en France. Donc c'est plutôt une bonne tendance.
Oui, c'est plutôt intéressant. Alors, il faut savoir que dès 2027, l'Union européenne exigera que les fabricants de smartphones, entre autres, parce que là on parle que des smartphones, mais c'est d'une manière générale, un peu comme l'USB-C tout à l'heure, un peu tous les produits électroniques, permettent le détachement systématique des batteries, la possibilité d'en changer facilement. Donc là, on focus sur Apple, mais tous les autres vont y passer. Les Samsung, les constructeurs chinois, etc. Parce qu'après, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être des amendes. Donc l'idée, c'est de pouvoir finalement, très facilement, enlever la batterie, qui est, on le disait, l'organe le plus fragile en fait d'un téléphone, pour pouvoir lui redonner une espérance de vie plus longue.
Et puis, ce qui est intéressant, pour moi, il y a deux choses. D'une contrainte, finalement, encore une fois, on a une opportunité d'innovation. Et si la contrainte, c'est de pouvoir rendre la batterie plus facilement amovible, et que l'opportunité, c'est qu'elle puisse, justement, en la faisant évoluer, durer plus longtemps et avoir une durée de vie plus importante, finalement, en contraignant, on arrive quand même à arriver à nos fins. Et puis, surtout aussi, on va avoir des téléphones qui vont être de plus en plus puissants, de plus en plus, surtout Apple, qui veut, on en parlait déjà la dernière fois, qui veut garder, en fait, une partie de l'intelligence et de la puissance dans le téléphone. Et ça va consommer de la batterie.
Ouais.
Donc ça va nécessiter d'avoir des devices qui soient plus performants, des batteries qui vont tenir, parce que c'est beau d'avoir des super services, d'avoir accès à... Mais en fait, si la batterie derrière, elle ne suit pas, parce que la capacité de calcul est dans le device, c'est pas négligeable.
Ouais, c'est vrai.
On va le voir,
Ce qui est rageant, c'est que cette capacité, ou en tout cas cette capacité d'augmenter la durée de vie de la batterie, existait dans le hardware. Et que c'est une contrainte de...
Oui, finalement, qui a été dictée par l'Union européenne.
Ça veut dire que, entre guillemets, dans la matière, ou en tout cas dans les compétences techniques, Apple avait déjà la possibilité d'augmenter, en tout cas, l'expérience. Et l'a volontairement réduite pour protéger une partie de sa propriété intellectuelle ou son obsolescence programmée ou effectivement des éléments qui sont plus business après. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Business is business.
Après, il faudra rentrer dans le détail, puisque en fait, cette réglementation qui rentrera en vigueur en 2027 doit permettre le détachement systématique des batteries, je le disais, et la possibilité d'en changer facilement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il va falloir quand même démonter le téléphone? C'est toutes ces questions-là, finalement. Est-ce que ça va être plus facile pour tout le monde, ou simplement pour les bricoleurs du dimanche qui sont un petit peu plus précautionneux? Parce que, si vous êtes avec nous à la télé, on voit derrière Enguerrand des personnes qui démontent les téléphones, et c'est vrai que c'est quand même un truc incroyable, quoi.
J'ai déjà visité des ateliers de reconditionnement. Bon, ça, enfin, moi, je suis pas très doué de mes mains, mais ça va.
C'est clair.
C'est pas si compliqué.
Toi et moi ne pourrions pas, changer la batterie de.
Mais il y a une vraie question, c'est que l'Europe impose une standardisation. Tu l'as dit pour les.
Oui, l'USB-C.
Les connecteurs USB-C. Et donc, à la fin, et c'est un peu ce que dit Apple, à la fin, il n'y aura plus de spécificité. On aura une standardisation des connecteurs, on aura une standardisation des batteries, et puis après, on aura une standardisation autre chose. Et donc, peut-être qu'on aura moins de différence entre l'iPhone, qui est un monde à part, qui a toujours été un monde à part, qui s'est toujours vécu comme un monde à part, et puis le reste des téléphones, où effectivement, on peut passer très vite. Alors, on a vu les Chinois parler de Huawei, qui a été premier, qui est redescendu, il y a Honor, il y a Samsung qui reste quand même, et puis il y a beaucoup d'autres fabricants, mais Apple, ça a toujours resté un monde à part. Et donc la volonté de l'Europe de lui imposer de la standardisation, ça a du mal à passer quand même.
Ouais, je pense.
Quand même du mal à passer.
Rendez-vous mi-septembre, puisque c'est toujours en général mi-septembre qu'on découvre les nouveaux smartphones d'Apple. On verra bien. Tiens, si on parlait un petit peu d'IA générative et notamment de ChatGPT d'OpenAI, voilà, sujet aussi passionnant. Il y a plus de 18 mois maintenant, OpenAI balançait ChatGPT qui a complètement bouleversé, on le voit au quotidien, des métiers, des secteurs. C'est impressionnant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour que ChatGPT soit de plus en plus bon, il faut qu'il scrolle de plus en plus de données. Voilà, c'est un ogre qui doit se nourrir en fait de data, de textes, de données pour être de plus en plus performant. Ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT a fait des choses de manière, on va dire, un peu pirate, sans trop le dire, en aspirant le web.
Comme tu es gentil.
D'un autre côté, on a l'impression que là maintenant, ils essaient un petit peu de s'acheter une bonne conduite, puisque. Comment ?
Ils ont plus d'argent.
Ils ont plus d'argent, ça c'est vrai. Et puis aussi, ils se rendent compte que ça devient un vrai problème, le droit d'auteur. Et donc, ils sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour signer des partenariats avec des journaux. Alors en France, ça a été Le Monde, par exemple. Ça a été aussi le Financial Times. Et le dernier en date, c'est Time Magazine, qui est sans aucun doute le magazine le plus prestigieux, l'un des magazines les plus prestigieux au monde. C'est intéressant quand même de voir ça.
C'est très intéressant parce que quand tu veux entraîner une intelligence artificielle sur une base de données, un dataset, t'as le choix et alors, ils le font. Par exemple, ils ont fait un deal avec Reddit. Mais alors Reddit, il y a énormément de données, il y a énormément. C'est un des forums dans lesquels tout le monde s'exprime. Enfin, c'est quand même très marqué 2024.
Oui, et puis t'as pas que du contenu de qualité sur Reddit. Voilà.
Et tu n'as pas que du contenu de qualité. Alors que là, Times, ça a 100 ans. D'accord ? Donc, alors, je ne sais pas si toutes leurs archives sont numérisées, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais au moins, il y a une profondeur. Il y a une profondeur sur les sujets.
Et surtout une qualité éditoriale.
Donc, en fait, à entraîner sur Times, c'est-à-dire un journal de très grande qualité qui a une très grande qualité éditoriale sur 100 ans et à côté sur Reddit, on ne sait pas à un moment, le Monde, il y a Springer, le Financial Times, et à un moment, c'est là où on va s'apercevoir qu'ils sont très malins parce que du coup, le New York Times, qui lui a pris l'option inverse, qui est parti en croisade contre ChatGPT et qui a dit on va faire des procès, on va vous gagner de l'argent, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et donc il y a ceux qui sont opportunistes, voilà, et là on le voit, la liste, et puis ceux qui sont partis en croisade, à mon avis
c'est probablement une posture de négociation. Ils savent qu'à la fin OpenAI va faire le chèque, mais en étant offensif
pour le New York Times
peut-être.
Oh, je pense que c'est du bluff tout ça. C'est pour faire monter les enchères.
Absolument, c'est mon avis.
Perle.
Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Certes, on dit ils sont prêts, OpenAI est prêt à mettre de l'argent avec des médias, mais c'est quand même aussi un acte fort que les médias soient prêts à passer ce type de partenariat avec un acteur comme OpenAI qui est un peu la bête noire finalement de ces trois dernières années. Et c'est intéressant de regarder finalement les avantages des deux côtés. Pour un média, c'est l'opportunité quand même de s'inscrire dans quelque chose qui soit très structurant, d'avoir finalement aussi accès à toute l'innovation et à technologie et tous les outils que peuvent proposer un acteur comme OpenAI. Et donc, potentiellement, derrière, de pouvoir aussi travailler sur la diversification, à la fois de services, de contenus et donc de la monétisation. C'est l'air de rien quand même une source de revenus. Il n'y a pas de chiffres qui ont été communiqués, mais on imagine que les deals sont quand même importants. Et puis, c'est aussi quand même quelque part une manière pour eux de garantir ou de protéger le contenu qui est produit dans le cadre de ces médias, de protéger finalement le travail des journalistes, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, ce qui était quand même très compliqué jusqu'à présent. Donc pour les médias, il y a quand même un enjeu et une opportunité pour eux de finalement de revenir dans le game entre guillemets et de contrebalancer le rapport de force avec ce type d'acteur. Et puis effectivement, de l'autre côté, pour des acteurs comme OpenAI, d'être capable de finalement d'avoir une base de données qui soit plus qualitative. Et donc, si la base de données est plus qualitative, les réponses produites,
seront de meilleure
contenu seront de meilleure qualité. Donc, on voit que le marché, l'écosystème est en train de se stabiliser, que les partenariats sont en train de se faire. Alors là, on parle de 3 médias ou 4 médias. Mais c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est un très bon signe.
Mais c'est clairement un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, ça fait complètement du sens que ça existe. Si on prend les modèles d'intelligence artificielle de type OpenAI, aujourd'hui vous n'avez plus de barrières à l'entrée ou de très grosses barrières à l'entrée d'un point de vue vraiment technologique. Alors certains ne seront pas complètement d'accord, mais je veux dire, les gros modèles open source aujourd'hui existent. Vous savez, OpenAI, Anthropic, Mistral, Google Gemini, etc. La techno, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, et le nerf de la guerre, c'est dans l'acquisition de la donnée de qualité. Et Sam Altman l'a redit plusieurs fois, que ça coûte 50 millions de dollars par an, 500 millions de dollars par an ou 5 milliards de dollars par an. Notre objectif, c'est de faire progresser l'intelligence artificielle, et quoi qu'il en coûte, on va continuer de payer pour acquérir de l'information de la qualitative. Et je pense que tu le disais très bien, c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée, mes profs me disaient, tu lis le Time et The Economist et tu vas devenir beaucoup plus fort, c'est très bien écrit, c'est qualitatif, en général les faits sont...
Oui, c'est des références.
Les faits sont checkés, voilà, il y a quand même des bases de données extrêmement qualifiées et de grande nature. Et de l'autre côté, on a un phénomène qui est arrivé depuis la digitalisation ou le passage à Internet avec les réseaux sociaux, qui est l'effondrement des business models et des économiques, entre guillemets, de la presse écrite, qui vend de moins en moins de journaux, qui a de moins en moins, qui a de plus en plus de mal à monétiser en ligne. Et donc tout ça fait complètement du sens, parce que tu as raison, je pense que les chiffres ne sont pas clairs. Moi, j'ai pu comprendre que c'était parfois plusieurs dizaines de millions de dollars par an qu'OpenAI payait à ses médias. C'est quand même conséquent, et ce serait complètement... ça ferait complètement pas du sens de le faire. Donc aujourd'hui, et ça arrivait comme... c'est un peu un miracle. La presse écrite, ou en tout cas la presse écrite historique, ceux qui ont ils ont peut-être trouvé leur modèle économique.
Alors,
ou en tout cas, ça vient à la rescousse d'un modèle économique qui était en perdition.
C'est
intéressant.
Mais là, on est vraiment.
Tous les patrons de presse se posent cette question.
Bien sûr, c'est un laboratoire, on ne sait pas trop où on va.
Mais c'est la théorie de la mort lente ou de la mort rapide.
Oui,
je te le fais. C'est assez simple. Première chose, effectivement, ils trouvent que leurs archives valent de l'argent. Donc ils sont assis sur une petite mine d'or, très bien, et le fait de le valoriser, c'est très bien, et c'est de l'argent qui rentre tout de suite, voilà, ça c'est très bien. Le modèle économique va être extrêmement challengé par l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, ils se posent tous des questions, on en discute beaucoup, ils se posent tous des questions, effectivement, jusqu'où on peut aller. Alors, effectivement, utiliser les outils, c'est augmenter l'offre éditoriale, mais utiliser des outils de là à remplacer une faible partie, voire une grande partie de la rédaction, c'est la fin du journalisme, quoi.
Non, mais en revanche, tu peux travailler sur de la diversification, là où un journal... Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit les médias se diversifient sur de l'événementiel, sur du tourisme, sur plein d'autres choses.
Ils le font depuis longtemps.
Non, mais bien sûr, donc avec des outils d'intelligence artificielle, aujourd'hui, tu vas pouvoir potentiellement aller là, sur des terrains où tu ne pouvais pas aller avant parce que ça coûtait trop cher, parce que ça demandait des investissements, de la complexité. Là où aujourd'hui, s'ils arrivent à monétiser...
Sans valeur ajoutée par rapport à d'autres qui iraient au même endroit avec les mêmes outils. Ce qui reste fondamentalement dans la presse, c'est la capacité à produire de l'information vérifiée. Parce que dans la diversification, tout le monde avec les mêmes outils peut y aller. La valeur ajoutée, la difficulté de la presse, c'est quand même de retrouver de la valeur ajoutée. Alors, avec le digital, ils avaient trouvé le modèle de l'abonnement, qui est le modèle du New York Times. Et là, on a retrouvé un modèle. Vraiment, je veux dire, le paradoxe, je le dis tout le temps, le paradoxe de la digitalisation dans la presse, c'est que Ça a multiplié l'audience. Ça a explosé l'audience. Ça a multiplié par 10 l'audience. mais ça a baissé les revenus. Ce qui est un paradoxe dans un média. Normalement, oui. On était tous habitués, plus tu as une audience, plus la corrélation est quasi...
Mais c'était à l'époque du papier, ça, mon cher Enguerrand.
C'était à l'époque du papier, il y avait une corrélation quasi parfaite entre l'audience et les revenus. Là, il y a une décorrélation, l'audience explose, les revenus baissent. Et c'est très dur à gérer, c'est très très dur à gérer. Qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle dans ce paradoxe? Je ne sais pas. J'espère qu'elle va donner des ressources supplémentaires. Passion pour la presse, moi.
Ouais, pourquoi un média pourrait pas devenir l'équivalent d'un Forrester ou d'un Gartner, parce qu'avec une capacité à traiter de la donnée, à se diversifier. Oui, c'est en ça que je parle de diversification. Ouais. Et c'est là où je pense qu'il y a des opportunités qui, a priori, ont compris, puisque ces partenariats se passent, mais de mieux monétiser, la légitimité d'un média, la puissance que ça a, effectivement, d'une information, la crédibilité, pour pouvoir développer d'autres services.
Alors, on ne connaît pas le montant financier, évidemment, de la transaction.
C'est vrai.
Ça, voilà. Est-ce que c'est quelques millions, quelques dizaines de millions?
On parle de quelques dizaines de millions de dollars
beaucoup,
par
an,
ce qui est bien sûr
colossal. Oui, en tout cas, pour un organe de presse, c'est beaucoup d'argent.
Ah, c'est beaucoup d'argent.
C'est de la marge pure, parce qu'il n'y a rien.
C'est un deal aussi. C'est un deal.
La marge pure, il n'y a aucun coût en face.
Voilà, c'est ça.
Ça vient augmenter le bas de bilan. Directement. Donc
Time Magazine pourra aussi utiliser tous les outils OpenAI en échange, bien évidemment. Alors ça peut être intéressant, c'est ce que tu disais. Peut-être qu'ils vont faire une immense banque de données aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand par exemple vous taperez, je sais pas moi, vous poserez une question à ChatGPT, qu'il va puiser dans les données de Time, il va sourcer.
Ouais, mais
sourcer. C'est intéressant.
C'est ça
quand
qui
même.
Est important. Et c'est ce que tu disais. C'est vrai que bon, technologiquement, il y a encore des différences majeur, mais ce qui va faire la différence, pourquoi est-ce que j'utilise davantage ChatGPT que Gemini ou Mistral, parce qu'honnêtement on l'a tous utilisé, c'est équivalent, du moins pour les prompts.
L'utilisation que nous on en a.
Voilà, donc on résume pour les prompts de modestes utilisateurs. Mais la qualité de la data, le fait que ce soit sourcé, mais ça va être extraordinairement plus intéressant pour ceux qui font ça. Quoi.
Ouais, donc, je trouve que c'est super intelligent pour les organes de presse qui ont le courage de faire ces... Je pense pas que ce soit des partenariats qui soient extrêmement populaires dans les rédactions.
Non, c'est un peu clair.
Se vendre son âme au diable. Mais tant qu'il y a une concurrence qui est très forte, qu'il y a de l'argent d'investisseurs privés qui inondent ces modèles d'argent pour investir et continuer à acheter de la donnée, ce paysage-là ne sera probablement pas exactement le même dans 5-10 ans. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il faut récupérer tant qu'il y a de l'argent à se faire sur la vente de son...
De
sa mine d'or.
Remontons 5 ans en arrière, c'était Meta qui finançait la presse. Ouais. Et Meta a arrêté de financer la presse. Non, mais ce que je veux dire par là...
Ça ne dure pas, ce ne sera pas éternel.
Ça ne dure pas éternellement, tout ça.
Facebook News, ça n'a pas duré.
Je rappelle de ça.
Mais Google News, Google a financé la presse aussi, on lui a tordu un petit peu le bras avec les...
Oui, ils étaient obligés.
Voilà, mais ils ont de l'argent et ils ont besoin aussi de...
Il faut en profiter.
Voilà.
Tiens, dernier petit sujet, alors celui-ci qui est vertigineux. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on a évoqué ce sujet il y a encore quelques secondes. Vous savez que cette intelligence artificielle, le moteur, ce sont ces puces, on le disait, ces processeurs que fabrique Nvidia. Est-ce que demain, on n'aurait pas quelque chose qui soit à la fois biologique et numérique, finalement? Il y a plein d'études vont dans ce sens, et il y a plein de labos qui travaillent sur des mini-cerveaux avec des neurones. Enfin, je veux dire, évidemment, ce n'est pas nos cerveaux à nous, mais en tout cas, c'est des fonctionnements neuronaux biologiques qui permettent en fait d'accélérer le traitement en fait des données informatiques, et qui pourrait aller encore plus vite que les processeurs Nvidia. C'est incroyable, je ne sais pas si vous avez vu ce sujet, on appelle ça, en fait c'est un nom bizarre, les organoïdes cérébraux.
Oui, tout à fait. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois en mars dernier à South by Southwest, à Austin. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est ce qu'on peut aussi appeler le mimétisme biologique. Et d'ailleurs, l'informatique et même l'IA s'est développée en copiant les réseaux neuronaux du cerveau.
Tout à fait.
Et là, avec ce qu'on appelle donc les organoïdes, l'idée, c'est de cultiver en laboratoire des cellules qui vont imiter la structure et le développement d'un organe. Là, ici, le cerveau, qu'on considère être finalement... plus puissant qu'aujourd'hui n'importe quel ordinateur, dans un, sa capacité à gérer de la complexité, dans la flexibilité en fait de c'est des milliards et des milliards de neurones et de connexions qui sont traitées extrêmement rapidement. Et donc l'idée, c'est de dire ben, pourquoi on va pas encore plus loin et on va finalement pas s'affranchir de ces infrastructures et de ces puces qui sont extrêmement consommatrices d'énergie.
Oui.
Et on calque pas ça à finalement ben, l'organe humain, le cerveau humain, la manière dont fonctionnent les cellules, qui sont extrêmement peu consommatrices d'énergie et qui sont extrêmement performantes. Et donc, on voit apparaître, enfin, depuis ces 5 dernières années à peu près globalement, des recherches dans différentes universités, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, même en Europe d'ailleurs. Alors, ça pose d'autres sujets parce qu'effectivement,
évidemment, éthiques, forcément.
Qui vont, si un jour on arrivait vraiment à en faire quelque chose de performant, qui arrive vraiment dans le monde du business ou même dans le grand public pour des applications, poserait plein de questions. Mais en tout cas, la démarche en termes d'innovation et d'ingénierie est extrêmement intéressante parce que ça permet vraiment de faire un bond dans, et puis surtout de s'affranchir de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de ces infrastructures techno, de ces acteurs comme Nvidia ou de cette consommation.
Non, Salim, mais après Enguerrand.
Pourquoi pas utiliser finalement un produit qui est le fruit de 4 milliards d'années de R&D, qui est le cerveau, parce que c'est 4 milliards d'années de R&D, de développement et d'optimisation de notre espèce humaine.
Avec des investissements colossaux qu'on n'arrive même pas à chiffrer.
Des investissements colossaux de venture capital, de méchants capitalistes américains. Et donc, oui, bien sûr, si on a la capacité de faire la jointure, je pense que ce sera gagné. Mais je suis d'accord avec toi, l'innovation commence, elle existe. Nous, on a reçu des dossiers d'investissement sur cette thématique-là.
Ah oui.
On n'est pas dans du futur. On n'est pas dans le futur ou dans la Matrix. C'est entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
Enguerrand, pour terminer là-dessus.
C'est extraordinaire, hein, ce qu'un cerveau, 1,3 kg, consommation d'énergie, on prend juste une barre de céréales, et voilà, ouais. et on a un prix Nobel de physique ou de littérature. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. La même chose dans un cerveau lilliputien d'une fourmi, et elle est capable de faire des choses. Donc, j'aime beaucoup l'expression 4,5 milliards d'années de R&D, mais c'est exactement ça. Ouais. La capacité du cerveau humain, alors on ressent tout sur nos cerveaux humains, mais la capacité du cerveau d'un insecte, la capacité du cerveau de n'importe qui, c'est extraordinaire, avec une consommation d'énergie égale à zéro. Et comme la question de la consommation d'énergie est aujourd'hui un peu posée, mais va devenir prégnante dans quelques années, il va y avoir une nécessité de trouver une autre voie.
Voilà. Alors ça fait un peu, c'est un peu vertigineux parce qu'on se dit peut-être que demain, voilà, on aura des robots mi-électroniques, mi-biologiques. Enfin bon, bref. Gardons ça pour le prochain film d'horreur, les amis. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Perle Bagot. Merci à Salim Assad et merci à Enguerrand Renaud pour ce super débrief de l'actu.